Bonjour à tous, à toutes et à tous, pardon. Le mot clé aujourd'hui, c'est le mot justement aujourd'hui. C'est un mot que l'on retrouve dans différents textes de la Bible, notamment dans le dernier verset, le verset 14 du texte d'aujourd'hui, quand les anges disent aux bergers, aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Le mot aujourd'hui, on le retrouve dans plusieurs textes du Nouveau Testament. Et je crois que cela nous montre, que, d'après ces textes, que Jésus, que Dieu, est le Dieu d'aujourd'hui. Il est certes le Dieu du passé, puisqu'il existe de toute éternité. Il a toujours été là, auprès des hommes. Nous le voyons dans toute la première partie de la Bible, le Nouveau Testament. Il a été toujours actif. Il a toujours eu son regard sur les hommes pour pouvoir les aider, pour venir à leur secours quand ils étaient dans la détresse, pour les accompagner quand ils craignaient peut-être d'aller plus loin. Par exemple, nous voyons dans la vie d'Abraham que Dieu était là au départ quand il l'a appelé, que Dieu l'a suivi, que Dieu l'a accompagné, que Dieu l'a accompagné même lorsque Abraham ne marchait pas tout à fait dans la voie que Dieu lui avait tracée. Mais d'une manière générale, Dieu était toujours là. Il a toujours été là, et surtout, bien sûr, pour ceux qui étaient prêts à compter sur lui. Alors, dans le Nouveau Testament, j'aimerais cet après-midi passer en revue rapidement 5 événements, 5 textes, nous ne les lirons pas tous parce que ce serait trop long, mais qui nous parlent de ce Dieu qui est le Dieu du présent, qui est le Dieu d'aujourd'hui. Évidemment, comme je l'ai dit, Dieu est le Dieu du passé, il est le Dieu du présent. Nous allons le voir aujourd'hui, et il est ici le Dieu de l'avenir, puisqu'il promet de nous accompagner du départ jusqu'à l'arrivée. Le premier texte, celui qui vient d'être lu, nous parle donc de cet événement extraordinaire qui est arrivé lorsque Jésus est né. Je pense que personne en Judée ne s'attendait à la venue de Jésus. L'histoire montre que les chefs religieux, entre autres, mais peut-être l'ensemble des croyants de l'époque, ne s'attendaient pas à ce que Jésus vienne à ce moment-là et sous cette forme. Il semble bien que les Juifs du temps de Jésus attendaient un roi, ils attendaient un Messie, donc quelqu'un qui, par étymologie, était oint, choisi par Dieu, mais ils s'attendaient à un roi qui viendrait reprendre le pouvoir, puisque vous le savez, à l'époque de Jésus, le peuple d'Israël vivait sous le joug de l'occupant qui était les armées romaines, le pouvoir donc de l'Empire romain. Le peuple d'Israël attendait quelque chose. Il connaissait un certain nombre de promesses que nous trouvons dans la première partie de la Bible, l'Ancien Testament, et qui annonçaient qu'un jour Dieu visiterait son peuple d'une manière toute particulière, non plus par des prophètes comme il l'avait fait par le passé, non plus par des rois inspirés, plus inspirés que d'autres, ou plus fervents, plus fidèles à la loi de Dieu que d'autres, non pas par des docteurs de la loi, mais d'une manière plus particulière. Dieu, par exemple, avait annoncé par le prophète Jérémie, il avait dit que la loi qu'il avait donnée à son peuple, pour que son peuple y obéisse, et qui devait lui servir de guide, cette loi, un jour, il avait dit par Jérémie, qu'il la mettrait carrément dans le cœur, pour que, en quelque sorte, son peuple puisse mettre cette loi en pratique d'une manière vraiment naturelle, que cette loi habite vraiment en lui, et ne soit pas simplement un ensemble de préceptes extérieurs qu'il fallait, par obligation, mettre en pratique. Alors, on peut imaginer que lorsque les bergers, dans le récit qui vient d'être lu, voient cette apparition des anges, d'abord, cela a dû les impressionner. Et puis, ils ont dû être surpris de l'annonce qui leur a été faite. Il est probable, d'ailleurs, qu'ils n'en ont pas saisi tous les aspects et toutes les conséquences. C'était trop nouveau. Dire qu'il est né un sauveur, peut-être qu'ils ont compris un libérateur. Bon, c'était un libérateur, c'est vrai. Mais ce n'était pas, par exemple, un libérateur comme au temps des juges. Au temps des juges, Dieu avait suscité des hommes qui avaient un pouvoir, disons, militaire, politique, qui se distinguaient par leur bravoure et qui étaient des hommes envoyés par Dieu pour libérer son peuple de l'oppression politique, militaire, des peuples voisins. Là, Dieu dit, aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Alors, le fait que le mot « aujourd'hui » est employé, cela nous montre bien que Dieu aime intervenir dans notre vie. Cela montre également qu'il y a dans le plan de Dieu toujours un moment précis, un aujourd'hui, où Dieu va se manifester d'une manière particulière. Ce peut être tout simplement dans l'une de nos attentes. Par exemple, certains peuvent attendre que dans leur vie, il y ait quelque chose qui se décante, un travail qui se présente. Il y a parfois des croyants qui, ben, comme tous les autres êtres humains, connaissent des problèmes de manque de travail, ou c'est un problème de santé, ou c'est un problème familial, ou c'est un problème relationnel, d'une manière plus générale. Dieu promet son intervention dans notre vie si nous nous attendons à lui. Le peuple d'Israël attendait le jour de l'intervention de Dieu. Et c'est parce qu'il l'attendait qu'il l'a vu. Lorsque les anges ont dit « Aujourd'hui, il vous est né un sauveur », cela voulait dire qu'à partir de cet aujourd'hui, tout devenait possible. Jésus est né, et puis une trentaine d'années après, il a commencé son ministère, et là, c'était encore un autre aujourd'hui. D'ailleurs, c'est notre second texte. Notre second texte, nous le trouvons dans Luc au chapitre 4 et à partir du verset 14. Nous n'allons pas le lire, mais je lis simplement le début dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 14. C'est ce fameux épisode lorsque Jésus, qui vient tout juste de commencer son ministère sur la terre, dans le pays d'Israël, Jésus vient de passer quelque temps, 40 jours et 40 nuits dans le désert avec le diable pour être tenté par lui. Et puis, revêtu de la puissance de l'Esprit, il est dit dans Luc 4, 14, Jésus retourna en Galilée, sa renommée se répandit dans tout le pays alentour, puis entré dans la synagogue de Nazareth, il prend la parole de Dieu et il commence à lire « L'Esprit de l'Éternel est sur moi » parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, etc. Et un peu plus loin, Jésus dit, après avoir refermé le livre, Jésus dit, aujourd'hui, verset 21, Luc 4, 21, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Il y a donc un aujourd'hui pour que Jésus vienne sur terre, il y a eu un aujourd'hui pour que Jésus commence réellement l'œuvre pour laquelle Dieu l'avait envoyé sur terre. Cette œuvre, Jésus l'a accomplie pendant quelque temps, peut-être 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Les historiens de la Bible, qui étudient la Bible, ne savent pas exactement se déterminer, mais ça a duré au moins 2 ans, 2 ans et demi, si ce n'est pas 3 ans. Quand Jésus, ce qui est intéressant, c'est que lorsque Jésus est venu dans sa ville, la ville où il avait grandi, non pas sa ville natale, qui était Bethléem, mais la ville où il avait passé, où il a passé finalement la majeure partie de sa vie, puisqu'il est arrivé à Bethléem, il avait peut-être 2-3 ans, il a quitté Bethléem, il avait Nazareth, il est arrivé à Nazareth vers 2-3 ans, il a quitté Nazareth vers l'âge de 30 ans, il est monté sur la croix environ 3 ans plus tard, donc les 3/4 de sa vie, il les a passés dans cette ville. Les gens l'ont vu grandir. Les gens l'ont vu devenir adolescent, les gens l'ont vu commencer à travailler probablement, comme le dit l'Évangile, avec son père, avec Joseph, et prendre le même métier, charpentier, menuisier. Et je dis tout cela parce que je crois que c'est là le secret de l'incompréhension des habitants de Nazareth lorsque Jésus est venu, au début de son ministère. Les gens de Nazareth connaissaient Jésus comme un menuisier. Nous, bien sûr, c'est quelque chose qui nous est peut-être difficile parfois à réaliser ou à laquelle nous ne pensons pas souvent, c'est que pour nous, Jésus est le sauveur. Jésus est celui qui est venu pour sauver les hommes de leurs péchés. Mais pour les habitants de Nazareth, quand Jésus est arrivé un beau matin en leur disant « Voici cette parole de l'Écriture L'Esprit du Seigneur est sur moi pour que j'annonce une bonne nouvelle aux pauvres, pour que je rende la vue aux aveugles, pour que j'annonce une année de grâce du Seigneur. Pour les Nazaréens, c'était quelque chose d'inouï, parce qu'ils connaissaient Jésus, comme on le dirait aujourd'hui, ils l'avaient connu tout petit. Ils l'avaient vu grandir. Leurs enfants étaient allés à l'école avec lui, si tant est qu'ils avaient l'école comme aujourd'hui. Il était comme tout petit juif qui se respecte, il était allé à la synagogue, il avait suivi les cours, il avait passé sa bar mitzvah à l'âge de 12, 13 ans, et puis ensuite il était devenu comme un membre de la synagogue, il allait à la synagogue, au culte, tous les vendredis soirs, et il suivait cette préparation. Et puis, il a pris son métier. Il a pris son métier, il a commencé à travailler comme menuisier. Alors peut-être certains pensaient, mais Jésus, mais c'est lui qui a fait nos meubles. C'est lui qui nous a livré ce buffet, etc. Pour eux, il n'y avait qu'une seule explication. Jésus était le menuisier, le fils de Marie et de Joseph. Il y avait là ses frères qui habitaient encore la ville et qui avaient leurs différents métiers. Il y avait leurs propres enfants qui avaient connu Jésus toute leur enfance et toute leur jeunesse. Mais là, Jésus dit, aujourd'hui, cette parole est accomplie. Dieu va se servir de moi pour libérer mon peuple. Alors vous pensez bien que la chose se produirait aujourd'hui, ce serait la même réaction. On a du mal à accepter qu'une personne, aussi bonne soit-elle, car Jésus, bien sûr, avait rendu un bon témoignage pendant toute son enfance, toute sa jeunesse. Il avait obéi à ses parents. C'était un enfant modèle, certainement. Mais de là à croire qu'un enfant modèle puisse être le Fils de Dieu, il y a un énorme pas. Il y a un énorme fossé, un gouffre que les hommes ne franchissent pas facilement. À tel point que, dans cette ville de Nazareth, alors que Jésus disait « Aujourd'hui, Dieu commence une nouvelle œuvre. Aujourd'hui, les aveugles vont commencer à recouvrer la vue. Aujourd'hui, les pauvres vont être pris en charge. Aujourd'hui, tous ceux qui aspirent à une vie meilleure vont commencer à voir cette vie meilleure. À une condition, s'ils le croient. S'ils veulent bien croire que moi, Jésus, je suis là pour cela. Parce que je suis l'envoyé de Dieu. Les Nazaréens n'ont pas cru à cet aujourd'hui. La preuve, c'est que le texte se termine, Marc chapitre 6, verset 5, il nous est dit, Jésus ne put faire là, à Nazareth, aucun miracle, sinon guérir quelques malades en leur imposant les mains. Quelques personnes seulement se sont dit sans doute, et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Et si Jésus était vraiment, non pas seulement le jeune que nous avons connu, que nos enfants ont fréquenté, le menuisier qui nous a aidés quand nous avions besoin de son aide, mais s'il était quelqu'un d'autre? C'est vrai qu'après tout, il avait quelque chose de particulier. C'est pas un enfant, c'est pas un jeune tout à fait comme les autres, certains ont dû se dire. Il a quand même quelque chose que les autres n'ont pas. Et si ce qu'il disait est vrai? Alors il nous est dit que pour cela, il y a eu tout de suite un aujourd'hui, une œuvre de Dieu, puisque Jésus a pu guérir quelques malades. C'est quand même pas rien de voir un malade guéri. C'est pas rien, par exemple, de voir un aveugle qui recommence à voir sans l'intervention d'un médecin ou de la chirurgie. Ce n'est pas rien de voir un homme qui ne peut plus marcher commencer à marcher de nouveau. Ce n'est pas rien cela, mais cela est ouvert à tous ceux qui croient que aujourd'hui, c'est une année de grâce qui peut commencer dans leur vie. Alors il y a dans l'Évangile un homme qui a connu lui aussi son aujourd'hui. C'est ce fameux fonctionnaire, j'essaye de trouver un mot moderne pour le traduire, son métier, fonctionnaire du ministère des impôts, vous voyez de quoi je veux parler. C'était un inspecteur, peut-être pas un inspecteur des impôts, mais un percepteur. Vous savez que les Français, je suppose comme beaucoup de autres nations dans le monde, n'aiment pas trop qu'on leur parle du percepteur. hein, quelqu'un qui perçoit. On ne perçoit pas trop ces gens-là. Bon, et pourtant, il en faut. Et pourtant, il y a des gens remarquables qui sont de très bons percepteurs et qui sont de très braves hommes, très braves femmes. Il en faut. Aucun État ne peut fonctionner sans ces gens-là. Eh bien, Zachée était un percepteur, mais un percepteur un peu spécial. C'était un percepteur qui percevait un peu plus que de raison, un peu plus que l'État l'avait décidé. En plus, il travaillait pour l'occupant romain. Et vous savez, quand on est d'un peuple, on appartient à un peuple qui est occupé par un occupant, occupé par un autre pays, par les armées d'un autre pays. On sait ce que c'est, notamment en France, et je pense que dans bien des pays du monde, on le sait malheureusement. Un percepteur qui travaille pour l'occupant, déjà un percepteur, c'est pas toujours bien vu, mais un percepteur qui travaille pour l'occupant, c'est encore bien plus mal vu. Et c'était le cas de cet homme, vous savez de qui je veux parler, Zachée, dont l'histoire nous est racontée dans Luc chapitre 19. Zachée a connu son aujourd'hui. Pourquoi cela ? Parce que même s'il était un homme corrompu, comme le présente l'Évangile, qui prenait beaucoup plus que ce que l'État lui demandait de prendre, donc tout ce qui n'était pas, par exemple, si l'État lui demandait de prendre à une personne 100 euros, lui en prenait 400. Et 400 plus allait dans sa poche. Alors, ça n'a pas changé beaucoup. Enfin, je veux dire, il y a tout le temps corrompu. Dans toutes les temps, très franchement. Mais il y avait quelque chose dans cet homme d'inattendu, c'est qu'il avait entendu parler de Jésus et surtout qu'il était intéressé par Jésus. Et vous le savez, mes amis, c'est ce qui l'a sauvé. Vous savez que la Bible nous présente certains hommes comme des hommes corrompus, durs, méchants, parfois cruels. Mais la Bible dit qu'à un certain moment de leur vie, ces hommes-là ont pensé à Dieu. Ils ont eu la pensée de Dieu dans leur esprit. Et ils se sont dit, mais est-ce que Dieu s'intéresse à moi ? Et ils se sont donné la réponse en se disant, oui, il n'y a aucune raison que Dieu ne s'intéresse pas non plus à moi. On a connu comme cela dans l'Ancien Testament des exemples d'hommes qui, de manière tout à fait inattendue, ont appelé Dieu à leur secours. Je cite souvent l'exemple de ce fameux roi, parce que je crois que c'est de tous les rois qu'Israël a eu dans son histoire, c'est sans doute le pire. Il n'y en a pas de pire. Si vous lisez tout l'Ancien Testament, je ne pense pas que vous trouverez un roi pire que le roi Manassé. Bon, c'est un nom qui n'est peut-être pas très connu, mais si un jour vous voulez lire son histoire, il vous faudra à peu près un quart d'heure. En un chapitre, pas très long, peut-être 30, 40 versets, la Bible nous présente ce roi, donc pour lire 40 versets, il ne faut même pas un quart d'heure, en 10 minutes, vous verrez que ce roi a fait tout ce qu'il pouvait pendant sa vie pour tenter Dieu, pour provoquer Dieu, pour déplaire à Dieu. Et que je dis déplaire à Dieu, c'est vraiment un mot gentil. Il a fait toutes les horreurs possibles et imaginables jusqu'à faire mourir ses propres enfants d'une manière très cruelle. C'est pour dire que cet homme était vraiment pratiquement le pire des hommes. Eh bien, figurez-vous que cet homme, à un certain moment de sa vie, a connu la détresse parce que son pays a été envahi par un roi étranger avec une puissante armée. Il a été fait prisonnier. Il a été emmené dans un pays étranger où le roi de ce pays, son vainqueur, donc, l'a mis en prison, accroché avec des chaînes, d'une manière très, très, très sévère, bien sûr. Et c'est dans sa prison que ce roi s'est rappelé. Comment pouvait-il ne pas se rappeler qu'il y avait un Dieu, puisqu'il avait passé sa vie à le provoquer et à lui déplaire. Eh bien, ce roi, dans sa prison, s'est tourné vers Dieu et a demandé son secours. Et le plus extraordinaire, c'est que même pour ces gens-là, il y a un aujourd'hui de Dieu. Un jour que Dieu a mis à part et où il s'est dit, si jamais cet homme se tourne vers moi, je l'écouterai. Et c'est ce qui est arrivé. Le roi Manassé, dans sa prison, a tourné ses yeux vers Dieu. Il a crié au secours. Et l'Éternel, Dieu, lui a répondu. Et la Bible dit qu'il l'a restauré sur son trône. Il a fait en sorte que ce roi soit libéré et puisse retourner dans son pays. Et j'espère que personne ne criera à l'injustice, parce que cela, c'est Dieu. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Moi, je ne pense pas que, humainement parlant, j'aurais accepté de faire une telle chose. Vous savez, nous les hommes, nous sommes plus durs que Dieu. David, le roi David, disait à un certain moment de sa vie, « Je préfère tomber entre les mains de Dieu qu'entre les mains des hommes. » Et il savait de quoi il parlait, parce qu'il avait eu affaire aux hommes pendant une bonne partie de sa vie, et les hommes ne l'avaient pas gâté. Alors même à ce moment difficile de sa vie, il a dit, « Je préfère me mettre entre les mains de Dieu, que Dieu fasse ce qu'il veut avec moi. » Eh bien, le roi Manassé a dû se dire la même chose, et Dieu l'a ramené sur son trône. Il y a donc un aujourd'hui pour tous les hommes. Zachée voulait voir Jésus, il s'intéressait à Jésus, et lorsqu'il a su que Jésus passait dans sa ville, il a fait en sorte de venir le voir. Vous savez, Jésus passait, je suppose, dans l'artère principale de Jéricho. Alors Zachée, vous connaissez l'histoire, il est monté dans un arbre parce qu'il ne voulait pas qu'on le voie, et comme il était petit, il faisait peut-être, je ne sais pas, moi, 1m50, comme il était petit, vous savez, quand il y a beaucoup de monde dans les rues pour voir quelqu'un, quand il y a tout un des files de gens, des, comment on dit, des rangées de gens de chaque côté de la route, si vous faites 1m50, il y a peu de chances que vous voyez grand-chose. Surtout s'il y a 3-4 rangs de gens devant vous, dont certains font 1m90 ou même 1m70. D'ailleurs, 1m60 même suffit s'ils ont fait 1m50. Alors Zachée est monté dans un arbre, il s'est caché bien sûr dans les feuilles et tout, et puis il s'est dit comme ça, je verrai qui est ce Jésus sans que personne ne me voie. Alors, vous connaissez la suite de l'histoire. À un certain moment, Jésus, qui pourtant ne cherche pas à embarrasser les hommes, Jésus est passé devant l'arbre où était Zachée, notre percepteur municipal, et puis il s'est arrêté devant l'arbre, et là, je crois que Zachée a commencé à trembler et à se dire, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il nous fait, ce Jésus? Jésus s'est arrêté, a levé les yeux, et là, Zachée a bien vu que Jésus regardait dans sa direction. Il s'est dit, bon, pas de problème, personne ne me voit, sauf que Jésus a appelé son nom, Zachée. Et alors là, Zachée s'est dit, c'est la fin du monde pour moi. Jésus a demandé à entrer dans la maison de Zachée. Oh, je ne pense pas que c'était pour vérifier les comptes, pour voir où il y avait des malversations, comme on le ferait aujourd'hui, comme les inspecteurs de police pourraient le faire aujourd'hui. Non, Jésus n'a rien d'un inspecteur de police. Jésus voulait venir dans la maison de Zachée parce qu'il voulait sauver Zachée. D'ailleurs, Jésus, quand Zachée est encore dans son arbre, Jésus l'appelle et lui dit, Zachée, aujourd'hui, là maintenant, il faut que je vienne chez toi. Hein, je traduis en langage d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison, il faut que j'entre chez toi. Je m'invite. Et la Bible dit que Zachée a été tout heureux. Peut-être qu'il s'est dit sur le moment, si Jésus, qui est en ce moment l'homme qui monte, l'homme qui est le plus populaire du pays, si, enfin tout au moins auprès des masses populaires, si Jésus, l'homme le plus populaire du moment, vient chez moi, à la limite, peut-être qu'il cautionne tout ce que je fais. Ou alors, peut-être que pour lui, ce n'est pas si grave que pour les gens. Bon, je pense que s'il pensait cela, rien ne nous dit qu'il pensait cela, hein, mais s'il pensait cela, il se faisait quand même des illusions. Jésus voulait venir chez lui, tout simplement, parce que Jésus veut toujours notre bien. Il voulait venir chez lui parce que Jésus voulait changer sa vie. Il voulait changer cet homme. Parce que Jésus, quand il vient, est capable de tout changer. Paul disait, l'apôtre Paul disait, si quelqu'un est en Christ, donc si quelqu'un croit en Christ, si quelqu'un décide de vivre avec le Christ, il devient une nouvelle créature. Il devient un homme nouveau. Donc Jésus est entré dans la maison de Zachée. Je ne pense pas qu'il a cherché à voir les affaires de Zachée. Je ne pense pas qu'il a cherché à fouiller dans les tiroirs pour voir s'il y avait des pièces à conviction. Il lui a simplement annoncer l'évangile. L'évangile de l'amour de Dieu. La preuve, c'est qu'en sortant de la maison, et après avoir obtenu la conversion de Zachée, qui a même dit, « Eh bien, Seigneur, si j'ai pris à quelqu'un le quadruple de ce que je devais lui prendre, non, si j'ai pris à quelqu'un quelque chose, je lui rembourserai le quadruple. » Bien sûr, s'il a pris déjà le quadruple, il remboursera le quadruple du quadruple. C'était une manière de dire, « Seigneur, je renonce à ma vie passée. » Je ne veux plus corrompre personne. Je ne veux plus, pardon, vivre dans la corruption. Je ne veux plus tromper et voler personne. Pourquoi ? Parce que Jésus avait voulu entrer dans sa vie. Je pense que Zachée a été touché par l'amour de Jésus. Il a été touché par cet homme qui est entré chez lui sans lui faire sans doute la loi, sans lui faire la morale, mais simplement pour lui montrer que lui aussi, Dieu l'aimait. Comme Dieu aimait ce terrible roi Manassé, au point de venir le voir dans sa prison, et lorsque Manassé a crié, de venir le voir et lui dire « Tu m'as appelé Manassé, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Cela nous montre toute l'étendue de l'amour de Dieu. Dieu est un Dieu immense. Il n'est pas, comme on le représente quelquefois, quelqu'un de sévère, quelqu'un qui a érigé une loi morale pour qu'on la suive, qu'on le veuille ou non, qu'elle nous plaise ou non. Dieu n'est pas, excusez-moi l'expression, un trouble-fête. Dieu n'est pas quelqu'un qui veut nous empêcher de vivre une vie qui vaille la peine d'être vécue. La Bible dit même le contraire. Elle dit que Jésus, son Fils, donc Dieu incarné, est venu sur terre pour que nous ayons la vie, mais pas n'importe quelle vie. Non pas une vie morale, rigoureuse, sévère, austère, mais pour que nous ayons la vie. Et la Bible précise, et Jésus précise, une vie abondante. Abondante. Ce n'est pas qu'un petit mot, abondante. Est-ce qu'une vie vécue dans la rigueur de la morale, dans l'austérité, d'une manière sévère, pourrait être qualifiée de vie abondante ? Certainement pas. On dirait plutôt une vie difficile, une vie qui n'est pas drôle du tout. On dirait une vie trop difficile à supporter. Mais Jésus parle d'autre chose, il parle d'une vie abondante. C'est ce qu'il a proposé à Zachée, que Zachée a accepté. C'est ce qu'il a proposé à quelques gens de Nazareth qui ont accepté de croire en lui. Et c'est ce qu'il va même proposer au tout dernier moment, parce que l'homme s'est tourné vers lui au tout dernier moment, dans un autre épisode où le mot « aujourd'hui » apparaît, dans Luc chapitre 23, vous savez, quand Jésus est sur la croix. Il est entouré de deux bandits. L'un d'entre eux insulte Dieu parce qu'il est là sur une croix en train de mourir misérablement. Mais l'autre, qui est son complice, condamné comme lui à mort, l'autre aussi est en train de mourir sur la croix. Mais il voit Jésus à côté de lui et il dit « Seigneur », parce qu'il reconnaît ses fautes. Il reconnaît que lui, il mérite d'être sur la croix. Il mérite d'être condamné à mort. Mais Jésus, non. Alors comprenant que Jésus n'a rien à faire sur la croix, mais qu'il y est seulement par la faute des hommes, cet homme dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu entreras un jour dans ton règne. » Et Jésus a compris le sens de cette parole, c'est pourquoi il lui dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est au dernier moment que cet homme comprend. Peut-être qu'on lui avait mal expliqué avant. Peut-être que les hommes religieux qui prêchaient la loi de Moïse dans les synagogues, peut-être qu'il les avait déjà entendus dans sa jeunesse, avant de devenir un bandit, je suppose. Il avait dû aller lui aussi à la synagogue, comme tous les jeunes enfants juifs, et notamment les garçons. Mais à un certain moment, quelque chose s'était passé dans sa vie qui l'avait fait partir sur une mauvaise voie. Mais là, sur la croix, il a réalisé qu'il y avait en Jésus quelque chose d'autre, qu'il y avait en Jésus plus qu'une loi morale, qu'il y avait quelque chose de nouveau, qu'il y avait sans doute la présence de Dieu pour qu'il puisse dire « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Il y a eu un aujourd'hui. Et je crois qu'il y a un aujourd'hui toujours avec Dieu. C'est le dernier texte que je voudrais lire, c'est dans Hébreux chapitre 3, l'auteur de la lettre aux Hébreux parle des enfants d'Israël, des Israélites qui dans le désert s'était endurci, avait fait preuve de mauvaise volonté pour suivre la loi de Dieu. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Aujourd'hui, il a l'air de dire « Aujourd'hui, ne faites pas comme eux. Aujourd'hui, si vous, comme les Israélites, ont entendu sa voix, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne gardez pas le cœur fermé. Ne refusez pas de croire ce que Dieu vous propose. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » La Bible nous dit qu'il y a toutes sortes de choses qui peuvent endurcir notre cœur. Par exemple, je prends juste un exemple. Lorsque Moïse et son frère Aaron, qui étaient venus le rejoindre dans le désert, sont venus en Égypte, lorsque Moïse est revenu en Égypte, pour venir chercher son peuple et le libérer de la servitude sous les mains du Pharaon, il nous est dit qu'à un certain moment, ils ont parlé, donc lui et son frère Aaron, ont expliqué cela aux Israélites, aux Juifs qui vivaient donc en esclavage en Égypte, mais il nous est dit que ils n'ont pas voulu les croire, ils n'ont pas voulu les écouter parce qu'ils étaient impatients et à cause de leur dure servitude. En quelque sorte, les Israélites, les Juifs, on ne les appelait pas les Juifs d'ailleurs à l'époque, le peuple d'Israël qui vivait dans la servitude depuis des siècles et ceux qui étaient là à ce moment-là vivaient eux-mêmes dans une servitude particulièrement difficile, leur traitement était très dur à supporter. Lorsqu'ils ont entendu Moïse et Aaron leur dire « Dieu nous a envoyés pour vous libérer. » Mais ils souffraient tellement. Cela faisait peut-être tellement longtemps qu'on leur disait qu'un jour un libérateur viendrait. Que lorsqu'il s'est présenté à eux en chair et en os, comme ils étaient devenus impatients, qu'ils ne voulaient plus attendre, même lorsqu'on leur a dit « Le libérateur est là, c'est lui, c'est Moïse », il nous est dit qu'à cause de leur impatience, à cause de leur dure servitude, ils n'ont pas voulu le croire. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit cette parole, « Aujourd'hui, vous, » il s'adresse à d'autres Israélites, « Aujourd'hui, vous, si vous entendez sa voix, comme le peuple d'Israël avait entendu la voix de Moïse, ne gardez pas le cœur dur. » Une autre traduction dit, « Si vous entendez sa voix, ne refusez pas de comprendre. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Il a un plan pour chacun d'entre nous et ce plan, c'est un plan qui vise à nous donner une vraie vie, une vie qui vaille la peine d'être vécue, une vie dans laquelle on peut s'épanouir avec Dieu, sous son regard, avec son aide et une vie qui soit une vie abondante, une vie où Dieu nous fera connaître sa joie, sa paix, où il sera avec nous, il nous donnera son amour et où nous pourrons vraiment vivre une autre vie. Jésus, je termine par ce texte, dans l'Épître aux Hébreux toujours, il nous est dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, mettons notre confiance dans ce Jésus, car Jésus est vraiment celui qu'il a dit être, et si quelques Nazaréens seulement ont cru en lui et ont vu leur vie transformée, par son intervention, par la guérison, par la transformation de vie qu'il leur a apportée. Si Zachée a vu en son temps aussi, c'est que cet aujourd'hui de Dieu est une réalité, puisque sa vie en a été transformée, et bien d'autres avec lui. Alors, faisons confiance à ce Jésus qui est le même encore aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.